Paschali laudes, immolent Christiani. Agnus Redemi.
La biographie de Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Chapitre 2. Départ de Jeanne pour Orléans. Levée du siège. Voyage à Reims. Couronnement du roi. Tous les obstacles étant levés par la décision des théologiens, Jeanne se rendit à Tours, où on lui fabriqua une armure. Le roi voulut ensuite lui faire cadeau d'une belle épée, mais elle la refusa, le priant d'en envoyer quérir une qui devait se trouver dans l'église de Sainte-Catherine de Fierbois, et dont elle fit la description. On trouva l'épée à l'endroit indiqué par Jeanne. Le roi, émerveillé, lui demanda si elle l'avait donc vue auparavant. Elle répondit que non, mais que ses voix la lui avaient fait connaître. Elle se fit également faire un étendard, où était peinte l'image de notre Sauveur séant en jugement nu du ciel. De chaque côté se tenait un ange avec des fleurs de lys à la main. Pour devise, on y avait écrit ces deux mots, « Jésus Maria ». Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui commandèrent de le prendre hardiment et de le porter. Le roi lui donna pour sa conduite et garde Jean d'Ollon, sénéchal de Beaucaire, un chapelain, des pages et des serviteurs, et elle se mit en marche pour Orléans, avec une armée de quelques milliers d'hommes. Arrivée à Blois, Jeanne ordonna à son chapelain de faire faire une bannière où serait peinte l'image de Jésus crucifié. Avec cette bannière, elle rassemblait les prêtres soir et matin et chantait avec eux des antiennes et des hymnes de la Vierge Marie. Elle ne permettait à aucun homme d'armes de se trouver à ces réunions, s'il ne s'était auparavant confessé. Au sortir de Blois, cette cohorte sacrée marcha devant les gens de guerre, chantant le Veni Creator et autres antiennes, et entra avec Jeanne à Orléans. De Blois, Jeanne, pour obéir à ses voix, fit offrir la paix aux Anglais. Elle leur envoya un héraut avec une lettre qu'elle-même dicta. Voici cette lettre. En tête étaient écrits ces mots. Jésus Maria. Note en dehors du texte du lecteur bénévole J.F. Leblanc. Je note que le mot Jésus à chaque fois est écrit avec un H. J-H-E-S-U-S, pour ceux ou celles que ça pourrait t'intéresser. Retour au texte de l'abbé Jaugé. En tête étaient écrits ces mots. Jésus Maria. Roi d'Angleterre, faites raison au roi du ciel de son sang royal. Rendez les clés à la pucelle de toutes les bonnes villes que vous avez enforcées. Elle est venue de par Dieu réclamer le sang royal et est toute preste de faire la paix, si vous voulez faire raison. Par ainsi que France, vous mettrez jus et paierez de ce que vous l'avez tenu, à condition que vous renoncerez à la France et l'indemniserez des pertes que vous lui avez occasionnées. Roi d'Angleterre, si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre. En quelque lieu que j'atteindrai vos gens en France, je les ferai issir, sortir. Veuillent ou non, et s'ils ne veuillent obéir, à merci ne les prendrez. Croyez que s'ils ne veulent obéir, la pucelle vient pour les oxyre. Elle vient de par le roi du ciel, corps pour corps, vous boutez hors de France et vous promet et certifie la pucelle qu'Ali fera si gros, ha haï, que depuis 1000 ans en France ne fut vu si grand, si vous ne lui faites raison. Et croyez fermement que le roi du ciel lui envoyera plus de force à elle et à ses bonnes gens d'armes que ne sauriez avoir à 100 assauts. Entre vous, archers et compagnons d'armes qui êtes devant Orléans, allez-vous-en en votre pays de par Dieu, et si ainsi ne le faites, donnez-vous garde de la pucelle et de vos dommages vous souviennent. Ne prenez mis, jamais, votre opinion que vous tiendrez mi-France du roi du ciel et du fils de Sainte-Marie, mais la tiendra le roi Charles, vrai héritier, à qui Dieu l'a donné, qui entrera en belle compagnie. Duc de Bedford, qui vous dites régent de France pour le roi d'Angleterre, la pucelle requiert et prie que vous ne fassiez mi-destruction. Si vous ne lui faites raison, elle fera tant que les Français feront le plus beau fait que onc fut fait en la chrétienté. Escrite le mardi en la semaine sainte, entendez des nouvelles de Dieu et de la pucelle. Cette missive était adressée au duc de Bedford, qui se dit régent du royaume de France pour le roi d'Angleterre. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant numéro 1 qui dit ce qui suit. Cette lettre est rapportée avec quelques variantes par les différents auteurs, mais ces variantes ne portent que sur la forme. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Cette missive était adressée au duc de Bedford, qui se dit régent du royaume de France pour le roi d'Angleterre. Quand les seigneurs et capitaines anglais eurent lu cette lettre, entre guillemets, ils furent courroucés à merveille et, en dépit de la pucelle, dirent d'elle moult, beaucoup, de vilaines paroles, et par espécial l'appelant ribaude vachière et la menaçant de la faire brûler. Ils retinrent le héros, porteur des lettres, entre guillemets, tenant à moquerie tout ce que Jeanne leur avait écrit. Elle arriva elle-même à Orléans le 29 avril 1429. Elle voulait pénétrer dans la ville, entre guillemets, par le droit chemin où étaient Talbot et les Anglais. Mais on lui fit prendre une route détournée, et les bateaux n'ayant pu arriver, parce que le vent était contraire, on se trouva dans un grand embarras. Jeanne, s'adressant alors à Dunois, lui dit, entre guillemets, « En nom Dieu, le conseil de Dieu! Notre Seigneur est plus sûr et plus sage que le vôtre. Vous avez cru que je me trompais, et vous vous trompez plus vous-même. Je vous amène le meilleur secours qui vint. Jamais à aucun gens d'armes ou ville, d'autant que le secours est du roi des cieux. » Elle annonça que le vent allait changer, ce qui arriva, et enfin elle put entrer dans la ville. Elle était armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc, et faisait porter son étendard devant elle. Elle avait à sa gauche le bâtard d'Orléans, Dunois, richement vêtu, et était suivie de plusieurs autres nobles et vaillants seigneurs, écuyers et capitaines. D'autre part, la vinrent recevoir les autres gens de guerre et les bourgeois d'Orléans, portant grand nombre de torches et, entre guillemets, faisant telle joie comme s'ils vissent Dieu descendre entre eux. Hommes, femmes, petits-enfants, tous cherchaient à toucher ses habits ou son cheval et entre guillemets, était merveilleusement réconfortée. Aussitôt qu'elle fut entrée dans la ville, elle se rendit à la grande église Sainte-Croix faire la révérence à Dieu, son Créateur. Puis elle fut conduite au logis d'un notable bourgeois, dont la femme était en grande estime, et y passa la nuit. Le lendemain, elle parcourut la ville, et, entre guillemets, se portait aussi dextrement qu'un homme d'armes qui aurait suivi la guerre dès l'enfance. Elle défendit à personne d'aller à l'assaut avant d'avoir été à confesse, et aux femmes, entre guillemets, folles de leur corps, de suivre l'armée, disant que Dieu, à cause des péchés, permettrait que l'on perdît. Jeanne fit ensuite deux sommations aux Anglais. Elle leur envoya la dernière au moyen d'une flèche, mais quand ils l'eurent reçue, ils élevèrent la voix et accablèrent cette chaste guerrière des plus grossières injures, entre guillemets, desquelles paroles elle commença à soupirer et pleurait avec abondance de larmes, invoquant le roi des cieux à son aide. Et après, elle fut consolée, disant avoir eu nouvelle de son Seigneur. Elle répondit aux Anglais, entre guillemets, qu'ils mentaient et que malgré eux, tous ils partiraient bientôt, mais que Glacidas, leur capitaine, ne verrait point cet événement. Le 4 mai, au commencement de la nuit, elle reposait dans le lit avec son hôtesse, quand soudain elle s'éveilla en poussant un grand cri et disant à Dolon, entre guillemets, « Oh non Dieu, pourquoi ne t'éveilles-tu plus tôt? Mon conseil m'a dit que j'aille contre les Anglais. » Sur quoi Dolon se leva, incontinent, et l'arma, puis elle monta à cheval et, tenant la lance au poing, elle commença, entre guillemets, à courir par la grande rue de telle raideur qu'elle fit jaillir du feu du pavé. Quand elle rencontra les blessés qu'on rapportait du combat, elle dit n'avoir jamais vu sang de Français. Entre guillemets, que les cheveux ne lui en dressassent su. Son arrivée rendit courage aux Orléanais, et la Bastille Saint-Loup fut prise par les assiégeants. À cette occasion, Jeanne défendit de faire aucun mal aux gens d'église anglais, qui vinrent implorer sa protection. Le lendemain, jour de l'Ascension, on garda de part et d'autre un repos complet, et Jeanne fit ses Pâques, comme on disait alors. Le 6, vendredi, on attaqua la Bastille des Augustins. Un instant, les Français faiblirent, mais Jeanne fit volte-face, s'élança sur les Anglais en criant « Oh non Dieu !» et la victoire resta aux Français. Rentrés dans la ville, les capitaines tinrent un conseil sans y appeler Jeanne et résolurent d'attendre de nouveaux renforts avant de rien entreprendre. Entre guillemets, « Vous avez été en votre conseil, leur dit Jeanne, et j'ai été au mien. Le conseil de Messire s'accomplira, celui des hommes périra, nous combattrons demain. » Elle dit ensuite à son chapelain, « Levez-vous demain de bon matin, et vous tenez toujours près de moi, car j'aurai beaucoup à faire, et demain il sortira du sang de mon corps sur la mamelle gauche. » Le lendemain, au point du jour, elle assista à la messe, monta à cheval, et annonça qu'elle rentrerait le soir par les Tournelles, Bastille anglaise, et par le pont. Le combat fut très vif, et sur le soir, Jeanne fut blessée d'une flèche entre le sein gauche et l'épaule. Quand elle se sentit frappée, elle eut crainte et pleura. Quelques gendarmes qui la virent en cet état voulurent charmer sa plaie, mais elle s'y refusa, disant qu'elle aimerait mieux mourir que de faire chose qu'elle sût être péché. On mit sur sa blessure de l'huile d'olive et du lard. Et avec cet appareil, elle se confessa à son chapelain, pleurant et se lamentant. Bientôt, elle put retourner à l'assaut. Mais déjà, les chefs faisaient sonner la retraite. Elle les conjure d'attendre. Se retire à l'écart dans une vigne. Y fait un demi-quart d'heure d'oraison, puis dit à un gentilhomme qui l'avait suivi, « Regardez quand la queue de mon étendard touchera le boulevard !» Un moment après, « Jeanne, elle y touche !» dit le gentilhomme. « Tout est vostre !» répondit-elle. « Retournez de par Dieu à l'assaut des rechefs, car sans nulle faute les Anglais n'auront plus de force et seront pris leurs tournelles et boulevards. » Elle dit et se lance dans le fossé. À sa vue, les Anglais se mettent à fuir. Elle aperçoit Glacidas, qui l'avait tant vilipendé. « Rends-toi au roi des cieux !» lui cria-t-elle. « Tu m'as injurié, j'ai grand pitié de ton âme !» Glacidas, un instant après, tomba dans la rivière et se noya. Le lendemain, qui était un dimanche, les Anglais se retirèrent sur Meung et Jargeau, et Jeanne défendit de les inquiéter, par respect pour le repos du dimanche. Les habitants d'Orléans chantèrent un Te Deum et firent une procession générale pour remercier le Seigneur qui avait sauvé leur cité par la main de Jeanne. C'était le 8 mai 1429. À plusieurs reprises, Jeanne avait annoncé qu'elle ferait lever le siège dans les 8 jours, aux environs de l'Ascension. Dès le jour suivant, elle s'en alla de vers le roi lui porter des nouvelles, entre guillemets, de la noble besogne, et aussi pour le faire mettre sur les champs, afin d'être couronné et sacré à Reims, ainsi que notre Seigneur l'avait commandé. Elle prit donc congé de ceux d'Orléans qui, entre guillemets, tous pleuraient de joie et moult humblement la remerciaient et s'offraient eux et leurs biens à elle et à sa volonté, dont elle les remercia très bénignement et entreprit à faire son saint voyage. Dès que Jeanne fut en présence du roi, elle s'agenouilla moult humblement et l'embrassant par les jambes lui dit « Gentil dauphin, venez prendre votre sacre à Reims. Je suis fort aiguillonné que vous y alliez. Ne faites doute qu'en cette cité recevrez votre digne sacre. » Le roi et sa cour lui firent grande fête, admirant ses beaux faits et merveilles d'armes. Mais ils hésitèrent longtemps à suivre son avis. L'avis de Jeanne finit par prévaloir, et elle se mit en marche vers les premiers jours de juin avec Alençon et une partie de l'armée. Dans cette mémorable campagne qui aboutit au sacre du roi à Reims, Jeanne montra la même bravoure, la même prescience de l'avenir, les mêmes vertus chrétiennes que nous avons jusqu'ici admirées en elle. À la prise de Jargeau, elle monta à l'assaut son étendard à la main, et fut renversée par une pierre lancée d'une machine. Mais elle se releva aussitôt en criant « Sus, sus, ami! Notre sire a condamné les Anglais. À cette heure, ils sont tous nôtres! » On a remarqué que toujours après ses blessures, elle était visitée par Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Avant la bataille de Pathé, elle dit au duc d'Alençon « Il faut que vous ayez de bons éperons. »« Que dites-vous? Nous tournerons donc le dos, » répondit d'Alençon. « Non, » dit-elle, « mes grands besoins aurez-vous d'éperons pour courir après les Anglais. »« En nom Dieu, » disait-elle encore, « il les faut combattre. S'ils étaient pendus, est-ce nus, nous les aurions, car Dieu nous les envoyera afin que nous les punissions. » Le gentil roi aura aujourd'hui la plus grande victoire qu'il eût piéça jusqu'ici. Et m'a dit mon conseil qu'ils sont tous nôtres. Après la victoire, un Français ayant abattu à ses pieds un malheureux prisonnier, Jeanne descendit de cheval et fit confesser le pauvre navré blessé, le tenant par la tête et le consolant. Charles hésitait à faire le siège de Troie, entre guillemets. « Noble dauphin, lui dit-elle, commandez de faire venir nos gens et assiéger Troie, car au nom de Dieu, avant qu'il soit 3 jours, je vous ferai entrer dedans par amour ou par force. » Frère Richard, après la soumission de la ville, qui, en effet, eut lieu dans les 3 jours, faisait le signe de la croix et jetait de l'eau bénite en approchant de Jeanne, entre guillemets. « Approchez hardiment !» lui cria celle-ci. « Je ne m'envolerai pas !» À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. « Je ne suis pas une sorcière. Le signe de la croix et l'eau bénite faisaient fuir les sorciers. » Retour au texte de l'abbé Jaugé. « Approchez hardiment !» lui cria celle-ci. « Je ne m'envolerai pas !» Durant ce voyage, on lui dit qu'on ne lisait en aucun livre des faits tels que les siens. Entre guillemets. « Monseigneur, répondait-elle, à un livre auquel pas un clerc ne lit, tant soit-il parfait en cléricature !» L'armée arriva devant Reims vers les premiers jours de juillet. Le roi craignait de trouver de la résistance et de ne pouvoir entrer dans la ville. « Ne doutez point, dit Jeanne, car les bourgeois vous viendront au-devant. » Ce qui arriva. Le 6 juillet 1429, le roi fit son entrée dans la ville de Reims, accompagné de ses seigneurs, et de la pucelle, entre guillemets, qui était moult regardée de tous. Le lendemain, le sacre eut lieu selon les formes usitées. Jeanne y assista, son étendard à la main. Elle donna plus tard la raison pour laquelle elle avait porté son étendard à la cérémonie, entre guillemets. « Il avait été à la peine, dit-elle. C'était raison qu'il fût à l'honneur. » Quand le roi fut sacré et couronné, elle s'agenouilla devant lui en présence de tous les seigneurs et, lui embrassant les genoux, dit en pleurant, à chaudes larmes, « Gentil dauphin, or, maintenant, est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je levasse le siège d'Orléans et que je vous amenasse en cette cité de Reims. Recevoir votre saint sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. » À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. De ces paroles de Jeanne, on a voulu conclure que sa mission ne s'étendait pas au-delà du couronnement de Charles. Mais c'est à tort. Jeanne elle-même déclara plus tard qu'elle voudrait bien que ce fût la volonté de Dieu, qu'elle retourna près de sa mère et quitta les armes. Ses voix lui parleront après le sacre comme avant. Retour au texte de l'abbé Jaugé. En montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. » Entre guillemets, et moult faisait grand pitié à tous ceux qui la regardaient. Fin du chapitre 2 de la biographie de Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé.